Je ne sais pas si vous avez observé dans la première lecture, mais on voyait un homme du peuple apporter les prémices de la récolte, les premières gerbes de la récolte au Seigneur, conformément au précepte. Et puis le prêtre récupérait la corbeille avec ses premières gerbes de la récolte. Il y avait comme une pause. Il y avait comme une pause où justement celui qui apportait ce sacrifice de la première gerbe était appelé à faire mémoire de l'œuvre de salut de Dieu. Vous voyez que celui qui apportait le sacrifice faisait mémoire de comment le Seigneur avait libéré le peuple d'Égypte, l'avait arraché à main forte et à bras étendus de l'esclavage de Pharaon, des chaînes de l'esclavage de Pharaon. Et c'est seulement après que était prononcée la parole « C'est pourquoi, Seigneur, je viens apporter les prémices, le sacrifice des prémices ». On peut se demander, tiens, c'est vrai, on fait une pause dans le sacrifice pour faire un acte de mémoire, pour faire un acte de mémoire du salut de Dieu. Et de fait, c'est quelque chose qui est très important parce que, on pourrait dire, les premières gerbes de la récolte, on pourrait légitimement se demander, mais est-ce qu'on en aura d'autres ? Et donc, si je les offre en sacrifice, est-ce que je ne suis pas en train de commettre un acte suicidaire ? Là, de quoi, qu'est-ce qu'on va manger si c'était les seules choses qui allaient pousser et je les ai remises ? Et donc, il y aurait une angoisse, on pourrait dire, mais j'ai l'impression que ce précepte de Dieu est contraire au développement de ma vie. Et voilà qu'en ayant fait mémoire de l'œuvre de salut de Dieu et de sa puissance, alors on comprend que c'est le même Dieu qui nous a sortis de l'esclavage pour nous faire vivre, pour nous conduire dans un pays où ruisselle le lait et le miel. C'est à ce Dieu-là que j'offre justement cette première gerbe. Et donc j'ai confiance, celui qui a pris soin de nous d'une telle façon, avec une telle puissance, il va continuer à prendre soin de nous. Il est fidèle et il en a la puissance. Et donc c'est très volontiers que je lui offre les premières gerbes en disant « Mais Seigneur, c'est une action de grâce ». C'est toi qui donnes la fécondité et j'ai confiance que tu la donneras encore. Et donc vous voyez que le sacrifice ne devient pas une espèce d'acte fou, mais un acte qui est à la fois une gratitude et une confiance. Alors c'est intéressant justement parce que l'on est ce texte au début du carême, parce que le début du carême c'est le moment où on réfléchit justement à ce que nous-mêmes nous allons apporter pendant ce temps de carême en sacrifice au Seigneur pour convertir notre cœur. On réfléchit à quels sont les actes de jeûne, d'aumône, de prière que nous allons faire. Mais on peut se poser la question aussi, de dire, voilà, j'ai choisi ça, mais c'est souvent pas au tout début du carême, un peu plus tard. On dit, mais qu'est-ce que j'ai choisi ? La vie est déjà suffisamment compliquée comme ça. Et j'en rajoute, non, pas du tout. On arrête tout. Et je pourrais avoir le sentiment, justement, comme, je dirais, la même peur que pouvaient avoir ceux qui offraient les prémices de la récolte. Non, non, mais c'est contre ma vie, il ne faut pas que je fasse ça. Et donc, nous aussi, du coup, on est appelés pour pouvoir offrir ce sacrifice de notre chemin de carême. Nous sommes invités à faire mémoire de l'œuvre de salut de Dieu, de l'œuvre de salut de Jésus. Et justement, aujourd'hui, vous l'avez entendu dans l'Évangile, de la victoire de Jésus sur le tentateur, de la victoire de Jésus sur les tentations. Jésus est poussé par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable, c'est-à-dire que Jésus va être confronté dans son humanité semblable à la nôtre, à l'épreuve de la tentation, et ce, pour que notre humanité en sorte aguerrie. Et donc je vais contempler cette victoire de Jésus, parce que dans ce cas, je me dis, mais voilà Seigneur, ce que je t'apporte, eh bien j'ai confiance que je peux te l'apporter parce que c'est un acte de vie, je viens participer à la victoire du Seigneur. Alors, regardons un petit peu cette victoire de Jésus. Autrefois, au jardin de la Genèse, Adam et Ève avaient été confrontés aux ruses du tentateur, et ils en étaient sortis brisés, et nous avaient transmis une humanité blessée, ce qu'on appelle la trace du péché originel. Le Christ Jésus, lui, sort victorieux de cette confrontation et partage à ceux qui s'unissent à lui son humanité aguerrie. Eh bien, nous aussi, j'allais dire, à l'école de ce qui avait été vécu par le peuple hébreu dans l'Ancien Testament, contemplons cette victoire de Jésus sur le tentateur pour être affermis dans notre résolution, nous aussi, d'offrir en sacrifice pour manifester notre confiance et notre gratitude au Seigneur. Peut-être est-il bon, pour comprendre la victoire du Christ, de rappeler le mécanisme de la tentation. Comment ça fonctionne, la tentation ? Ça fonctionne en trois étapes. Ça fonctionne en trois étapes, en trois phases. La première phase, la suggestion. La deuxième phase, la délectation. La troisième phase, le consentement. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Le tentateur a le pouvoir de suggérer des images à notre imagination. Prenons un exemple pour nous pousser à la gourmandise. Vous vous demandez s'il est bien raisonnable de prendre une huitième louche de cette mousse au chocolat. Et vous avez l'image de cette mousse si légère, sa jolie couleur brune, et peut-être les petits copeaux de chocolat qui ont été semés au-dessus. Vous avez à l'oreille le bruit caractéristique de la louche qui s'enfonce dans la mousse ferme. Vos doigts se rappellent la sensation d'y enfoncer la cuillère et de la remonter vers votre bouche. Vous vous souvenez de ce parfum de vrai chocolat lorsque la cuillère s'approche de vos narines. C'est votre langue qui écrase doucement cette première cuillère de mousse sur votre palais. Voilà, la suggestion peut affecter tous nos sens. Et tout cela a pour but de nous mener à la délectation. La délectation, c'est ce moment où on choisit de prendre le temps de contempler cette suggestion. Et c'est à ce moment que notre volonté s'implique. Et c'est à ce moment, parce que notre volonté s'implique, que l'on devient complice du péché. Voilà, c'est là où on en salive déjà. Et voilà que dans notre cœur, la place pour ce désir dévié se construit, s'installe. Et enfin, troisième étape, on donne notre consentement. On a laissé monter ce désir, on l'a laissé devenir brûlant en nous, et c'est là où on choisit d'ouvrir le réfrigérateur. Voilà les trois étapes de la tentation. Suggestion, délectation, consentement. Eh bien, regardons comment Jésus, justement, lui, agit dans l'Évangile. Le tentateur, vous avez remarqué, plusieurs fois s'adresse à lui en disant « Si tu es fils de Dieu ». Il n'est pas en doute, en fait, la réalité de l'identité de Jésus, fils de Dieu, mais il vient attaquer le comportement d'un fils de Dieu. Il vient essayer d'induire par sa suggestion, on pourrait dire une trahison du comportement juste du fils de Dieu. Il a pour but d'infléchir le comportement de Jésus comme fils de Dieu. Et c'est là où on va voir aussi que la tentation, la suggestion dans la tentation n'a pas seulement pour but d'exciter les sens et les sensations, mais aussi de mettre notre intelligence dans un certain état de confusion, pour perturber notre discernement de la vérité. On va regarder la première tentation. Première tentation, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus a faim, ça fait 40 jours qu'il jeûne. Est-ce que ce ne serait pas légitime de manger ? On a besoin de manger pour vivre. C'est même respecter notre humanité que de lui donner ce qui est nécessaire pour subsister. Ne serait-ce pas d'ailleurs orgueilleux que de vouloir passer outre la réalité de la fragilité humaine ? Tu as le pouvoir ? Tu as le pouvoir de changer cette pierre en pain, bah utilise-le, que cette pierre devienne du pain. Et l'évocation du pain peut toucher les sens. Pardon. L'évocation du pain peut toucher les sens, mais l'idée du tentateur est aussi de limiter ce qu'un fils de Dieu doit vivre. Il suggère que de n'avoir d'attention que pour la nourriture matérielle suffit. Et que fait Jésus ? Il rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un fils de Dieu vit et sa dimension matérielle, et sa dimension spirituelle. Il nourrit son corps et son âme. Et nous gagnons ici encore un élément de discernement, justement par rapport à l'attaque de la tentation. J'espère que vous êtes encore là, ou je ne vous ai pas assoupi complètement, abattu par un coup de massue sur la nuque, mais que vous pouvez entendre cet élément justement de discernement qui vient. Un élément de discernement de la justesse d'un désir. Le désir issu de la tentation devient quelque chose d'aveuglant. C'est une soi-disant lumière. Cette lumière, mais fais du pain avec cette pierre. Ça semble une lumière. Il y a un problème, la faim. Il y a une nécessité, manger. Et il donne donc une lumière. Voilà la lumière, fais du pain, mange. Mais cette lumière se veut être aveuglante au sens qu'elle fait oublier tout le reste. Ici que l'homme est à la fois créature matérielle et spirituelle, qu'il doit se nourrir de Dieu. Et nous pouvons nous rendre compte parfois que nous sommes pris par des désirs qui nous font oublier tout le reste, qui occultent tout le reste. J'en oublie mes obligations professionnelles, j'en oublie les engagements que j'ai pris envers l'un ou l'autre, j'en oublie l'attention à mon prochain. Il n'y a plus qu'une espèce d'une seule lumière qui efface tout. Je croyais regarder la lumière et je suis aveuglé en fait. Il y a une partie de la réalité qui disparaît. Et voilà que des choses qui me semblaient pourtant importantes, le service que je devais rendre à mon conjoint, l'engagement que j'avais pris avec quelqu'un, quitte à mentir d'ailleurs pour me justifier. Si je me rends compte justement que tout a disparu, que tout est aveuglé, que tout est occulté, là j'ai très vraisemblablement le signe d'un désir issu de la tentation. Parce que le désir qui vient de Dieu, c'est un désir qui va continuer de nous permettre de voir l'ensemble de la réalité. À la fois, j'ai peut-être ce grand désir de servir, ce grand désir de te rencontrer, de te voir. Mais ce grand désir de te voir me donne l'énergie de finir mon travail à temps. Ce grand désir de te voir me donne justement le grand désir d'être plus juste, plus à l'écoute. Ce grand désir, en fait, vient illuminer toutes les dimensions de ma vie. Le désir qui vient de Dieu, si on peut dire, lui, a une conséquence de lumière sur tous les pans de notre vie et sur tous nos actes. Retenons ça parce que, justement, lorsque ça devient aveuglant, on a cette impression que je ne vais pas pouvoir continuer à vivre si je ne cède pas à ce désir. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Plus et rien d'autre n'existe. Et le désir de Dieu, justement au contraire, lui, nous permet de continuer à vivre notre devoir d'État et au contraire même nous encourage à le vivre. Eh bien, gardons peut-être justement cette image de ce que le Christ nous permet de discerner et ce que lui justement est capable de vivre. Il a faim assurément, mais il sait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc le Christ, en nous partageant justement sa victoire, et c'est ce que signifient tous les sacrifices que nous faisons dans le temps de carême, « Seigneur, je veux vivre de toi et avec toi. Je veux recevoir cette participation à ta vie, sans laquelle je ne peux pas vivre. » Eh bien, que la contemplation de cette victoire de Jésus nous aide à nous engager dans ce carême et nous aide, au long de ce carême, à continuer d'être fidèles à ce que nous avons choisi. On aurait pu regarder aussi la deuxième tentation et voir comment Jésus manifeste le souci du moyen juste. Avoir la puissance sur toutes les nations serait quand même très utile pour l'évangélisation. Ah oui, mais pas n'importe comment. C'est devant Dieu seul que tu te prosterneras. La troisième tentation et la réaction de Jésus manifeste la confiance en Dieu, reconnue comme fiable, ne nécessitant pas d'être testé à tout bout de champ et gratuitement. Que cette contemplation de la victoire de Jésus nous aide à nous engager et à tenir. Seigneur Jésus, partage-nous ta victoire. Nous voulons nous unir à toi. Nous savons qu'en mettant en toi notre foi, nous ne connaîtrons pas la honte, comme le rappelait saint Paul. nous invoquons ton nom pour être sauvés. Que la contemplation de ta victoire sur le tentateur nous donne d'offrir joyeusement ces sacrifices du temps de carême pour vivre avec toi, pour vivre de toi, pour vivre comme des fils et des filles de Dieu. Amen.